I know how it sounds.
La sexe. Exploratrice. Avec Mel Trudel.
La sexploratrice.
Radio X.
Bonsoir à tous et merci d'être à l'écoute de la sexploratrice en compagnie de Mel et Max.
Salut!
Hello, hello! Donc, c'est une émission en direct de Montréal ce soir. Merci la technologie d'exister. J'ai pu aujourd'hui enregistrer un beau podcast en compagnie de André du Club L et de Tréduchel, le magnifique, pour le podcast Détestable.
Très quoi?
Tréduchel.
C'est quoi ça?
Duchel, c'est une femme extraordinaire, extra pas ordinaire, comme j'aime le dire, qui tourne un podcast sur lequel on parle de dating.
Oh wow!
Donc, cordonnier mal-chaussée, comme tu sais, Max, moi, j'ai pas beaucoup daté dans ma vie parce que j'ai été 22 ans en couple.
Puis ça, je pense que c'est contrairement à ce que beaucoup de gens pensent.
Oui, exactement. Mais oui, ça, c'est drôle. Les gens pensent que je rencontre plein de gens tout le temps, que je suis très active. Et
c'est pas du tout le cas, dans le fond.
Non, c'est ça. Mais quand je suis active, je suis sûre que ouais.
Ah oui? C'est ça.
Moi, je préfère la qualité à la quantité.
Ah ben hein? OK. Moi, je suis un peu comme toi, moi aussi, là.
Ben, c'est ça. Puis j'étais jusqu'à tout récemment une quirky alone.
Une quoi?
C'est-à-dire que je préférais. Ouais,
ça va, les termes
seule.
À soir, je comprends rien de ce que tu dis. Une quirky alone. Sans ton
lexique, le petit lexique de Mel et Max. J'étais quirky alone, c'est-à-dire que je préférais rester seule plutôt que de multiplier les rencontres à la recherche d'un partenaire. Mais c'était jusqu'à tout récemment, parce que là, je pense que je suis plus sur le marché du célibat.
Ah ouais?
Oui, grosse annonce.
D'accord,
ouais.
OK. C'est... Ben écoute...
À suivre.
Tu me surprends pas, mais je suis content si t'en parles. Ouais, ben écoute, ça veut dire que ça va bien?
Ben oui, vraiment. Donc, ça fait déjà un petit moment, puis c'est très cool, très cool. C'était inattendu et les gens, je vous le dis, là, puis on le dit souvent, c'est quand on si on n'attend pas que ça se présente, c'est plus que vrai.
Ouais, ben, je suis vraiment content pour toi et pour vous, en fait. Puis comment on se sent, oui. Là, Mel, en tant que grande vedette des podcasts? Là, tu passes ton temps à Montréal, ça n'a plus de sens, cette affaire-là?
Hey, non, mais aujourd'hui, j'ai été honorée puisque c'était la première femme qui m'invitait sur un podcast.
D'habitude, c'est juste des hommes.
Jusqu'ici, j'ai eu presque juste des hommes qui m'ont invité.
Penses-tu que... OK, j'ai une question comme ça. Là. Penses-tu que quand un homme t'invite sur un podcast, il y a une idée en arrière de la tête?
Pas en tout. Mais non, mais non, mais non.
Tout le monde est professionnel.
Tout le monde est très professionnel, puis il y en a là-dedans qui ont des conjointes que je connais, puis tu sais, on est très... Non, très professionnel, puis de toute façon, je suis quand même capable de remettre les gens à leur place, ou tu sais,
oui,
s'il
oui.
y a des... Si, tu sais, s'il y a une invitation ou quelque chose avec quoi je suis pas à l'aise, moi, je niaise pas ben avec ça. Là.
Non, c'est pas mal la POC top corner assez vite, là.
Ouais, exactement. Je suis pas barrée, comme ils disent. Mais non, puis j'ai toujours bien du plaisir en podcast. C'est toujours très différent d'un podcast à l'autre. Donc, tu sais, j'ai tourné un podcast récemment avec deux jeunes dans la vingtaine, puis on a eu du fun, là, avec deux générations complètement à l'opposé. C'était vraiment très, très, très agréable. Mais là, ce soir, on a un invité dont je suis quand même heureuse d'avoir avec nous. Parce que on a eu la version féminine avec Alison Queen, où on a parlé de pornographie et de OnlyFans. Mais ce soir, on parle avec un acteur porno conventionnel, si on peut dire ça comme ça, mais également créateur de contenu. On est avec Rick Hart ce soir.
Merci, Mel, de me recevoir à ton podcast.
Je suis vraiment contente. Puis Max, hey, ça fait tellement longtemps qu'on veut le faire, cette entrevue-là.
Ouais, ça fait longtemps que tu m'en parles. Je suis vraiment curieux de te parler ce soir. Rick, d'ailleurs, bonsoir.
Bonsoir, ouais, ça fait depuis, je te dirais, si je me rappelle, depuis à peu près avril. Là,
qu'on est supposé là, de tenter de se croiser. Exact. Tu devais peut-être venir avec Alison. Finalement, on a décidé de le faire en deux séparés. Parce qu'il y a quand même beaucoup de stock, là, beaucoup de sujets, en fait, qu'on va aborder en lien avec ton métier, ta vie personnelle. Pour les gens qui ne te connaissent pas, peut-être, t'es une vedette montante. Finalement, t'es quand même une légende, on pourrait
Merci,
dire.
Merci, j'apprécie.
De la porno au Québec.
Merci.
Faut que j'avoue que je suis pas une grande consommatrice de pornographie et que les quelques fois que j'en ai consommé, c'était via le site belsa.co. Donc, je t'ai pas vue nécessairement. Par contre, j'entends beaucoup parler de toi comme beaucoup de gens. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ont eu la chance de te voir en action. Mais là, toi, t'es dans le domaine, si je ne me trompe, depuis le 5 novembre 2010.
Oui, depuis le vendredi 5 novembre 2010. Puis c'est par l'entremise de Pégase, Nicolas Lafleur, le propriétaire de Pégase, qui m'a donné cette opportunité en novembre 2010.
Est-ce que je me trompe ou Pégase a un lien avec Anne-Marie Lozic?
Non. Anne-Marie Lozic, dans le fond, elle a créé sa chaîne de distribution Vanessa TV,
oui, okay.
Qui distribue du contenu européen, américain, de mémoire, dont Dorcel.
OK, OK. Il n'y a pas de lien.
Il n'y a pas de lien, non.
OK.
Non.
Désolé d'avoir fait ce lien-là.
Il n'y a aucun problème. C'est correct.
Donc, ça fait déjà un bon moment que tu es dans le milieu.
Oui.
Est-ce que ça s'est développé assez jeune, cet intérêt-là, pour le
domaine?
Oui,
je te dirais, c'est peut-être une distorsion cognitive. Je te dis, je savais depuis l'âge de 11 ans que je voulais faire ça.
11 ans?
Oui, mais j'ai pas eu une enfance abusive ou quoi que ce soit. C'est juste, je veux dire...
Comment ça s'est déclenché?
C'est que j'écoutais des films 3X dans les années 90.
Sur Bleu Nuit à la télé?
Ça c'est les films 2X. 3X, c'est où c'est comme... tu sais, comme les films embrouillés, comme American Pie, là, tu sais, quand le gars, il se crosse.
À super écran.
Ouais, mais c'était plus Viewer Choice Pay-Per-View.
OK.
À l'époque, puis j'avais pas de décodeur. So, tu sais, c'était les postes 66, 67, un truc du genre.
Oui, oui, oui.
Puis, tu sais, je me suis dit plus tard, parce que les vieux acteurs porno de la génération des années 80 sont pas comme maintenant, c'était comme des gens normaux, comme tu sais, il y avait Ron Jeremy, puis peut-être tu ne connais pas Peter Norgeando, puis ça avait l'air des gars comme que tu pourrais voir au Renault Dépôt en train de s'acheter une planche de plywood ou puis tondre le gazon, puis dire, hey, même plus tard, je vais être comme ce gars-là. Puis, ça a juste... Je le savais, là, c'était comme, c'était destiné.
Tu savais que tu voulais faire ça déjà à l'âge de 11 ans?
Oui, peut-être que c'est une...
Étais-tu sexuellement actif, c'est-à-dire que tu avais déjà découvert la masturbation et
j'ai jamais été sexuellement actif, à avoir plusieurs partenaires. Tu sais, j'ai perdu ma virginité à 17 ans en même temps, mais j'ai toujours eu des longues relations. Puis j'ai jamais été au sens de l'éthique, être un player... ça, c'est plus vraiment comme à l'âge de 27 ans, je me suis dit, je vais y aller, puis décisite.
Donc, ça a pris un moment quand même entre le moment où tu souhaitais le faire et au moment où tu es passé à l'action.
Exactement. Puis je pensais que c'était quasiment impossible jusqu'à temps que tout peut se faire. C'est juste une question de volonté. Puis c'est comme... ça peut se faire, là. C'est pas impossible.
Ouais. Puis qu'est-ce qui t'attirait à cet âge-là? Si on parle de tes premiers débuts, tes premiers pas avec l'univers de la pornographie lorsque tu avais 11 ans, quand tu t'es dit que tu voulais faire ça, qu'est-ce qui t'attirait? C'était-tu le fait d'être connu? C'était-tu le fait de pouvoir coucher avec plusieurs personnes? C'était-tu l'argent?
Non, c'est pas l'argent, parce qu'honnêtement, pour un gars, tu sais, je pourrais dire, oh, tu fais plein d'argent, puis on te vend. L'argent, ça vient avec le par après. Il faut vraiment que tu sois passionné.
C'est pas comme on le pense, là, tu gagnes des milliers de dollars par scène et
non.
tout.
Ben, peut-être dans les années 80, ça, c'était plus facile, mais là, avec tout ce qui s'est...
Avec OnlyFans, l'arrivée d'OnlyFans,
être... L'Internet aussi, tu sais, okay, toute la gratuité sur les sites, ça n'a plus le sens glamour que c'était avant. Mais tu sais, c'est vraiment pas pour l'argent. C'est pas de l'argent facile, tu sais. Il faut vraiment que tu sois... Pour un gars, il faut vraiment que tu sois passionné, tu sais... et puis je te dirais, I guess, peut-être que je venais d'une famille judéo-chrétienne qu'il m'avait dit que la masturbation c'était mal vu, puis ça a comme déclenché comme une pulsion.
Un trouble d'opposition qui t'a mené à...
Un trouble d'opposition sexuelle. Puis là, l'affaire, vu que j'étais un gars des années 90, puis je voyais les films des années 80, Arnold, Stallone, so, je voulais être comme connu en faisant du porn.
Donc ça peut la gloire.
Ouais, je te dirais la gloire, mais tu sais, comme tu avais... Exactement, la gloire.
La
reconnaissance des gens, mais comme c'est plus le star qui vient avec porn star, tu sais.
Oui.
Puis je savais que c'était ça, puis le fait, les années 80, tu sais, comme maintenant, il n'y a plus vraiment de star d'Hollywood à cause de Netflix et tout. So, moi, dans ma génération, tu avais le film de Bruce Willis, où je voulais jumeler les deux mondes, puis... Ça a donné, okay. Qu'est-ce que ça a donné?
Parce que tu as quand même participé à des films assez controversés, par exemple Matricule 728.
Oui, j'avais fait exprès parce que je voulais que ça soit connu. Si on peut changer un peu les mœurs avec le X, c'est comme j'ai voulu être comme le poster boy, tu sais, comme mettons Serena Williams, tu penses automatiquement à tennis, Mohamed Ali, tu penses à boxe. So, t'sais, au lieu,
Rick Hard, on pense.
C'est ça. Mais je voulais comme commercialiser
ça. Et là, t'en es quand même pas mal là. Est-ce que t'es ou est-ce que tu te voyais être?
Je commence, mais pas au niveau du portefeuille, malheureusement.
Oui, c'est ça, hein?
C'est ça. So, t'sais, je veux dire, oui, je suis connu, mais il n'y a pas le portefeuille qui vient avec.
Puis qu'est-ce que tu veux dire par changer les mœurs relativement à ce qu'on
Parce que tout le monde voit la sexualité comme quelque chose de négatif. Puis, tu sais, veux pas dans tout ce qui est comme TS, travailleur de sexe. Moi, je me considère pas personnellement un travailleur du sexe.
Non?
Je serais pas capable d'être danseur. ou escort, ou j'ai rien contre.
Mais tu gagnes quand même de l'argent grâce à ta sexualité.
Mais c'est du de l'art dans ma tête à moi.
Bon, OK. C'est comme moi avec mes photos artistiques, là.
C'est ça, c'est...
Je me plais à dire que c'est pas des photos sexuelles ni érotiques, non, mais artistiques.
Mais elle est où, la notion d'art, là-dedans, Rick?
Ben, c'est que la sexualité, c'est supposé être un art, tu sais. C'est le c'est comme tu vends un fantasme. So, pour moi, je vois ça comme une forme d'art, une forme de, tu sais, de...
L'art érotique.
De l'art érotique, mais de la sexualité, même que ça soit hardcore, c'est... C'est comme... ouais, je vois ça de façon artistique.
Peut-être acteur. Que je,
ouais, acteur. Tu sais, tu dois, comme quand tu tournes avec une fille devant un tournage, il faut que tu montres que c'est la fille que tu veux, comme t'as une tension sexuelle. Alors, tu sais, mettre ça devant la caméra, c'est, ça demande beaucoup de travail mental puis artistique, selon moi. Sauf moi, je vois ça plus comme, tu sais, comme c'est ça, comme un performeur, un artiste, plus que je m'en vais comme danser pour, comme, parce que j'ai besoin de cash live.
Ouais.
C'est comme ça que moi, je le vois.
Puis, tu as tourné une scène également avec Guylaine Gagnon.
Ouais.
Est-ce que ça a été facile ou difficile pour toi de te laisser aller avec
Ben, c'est parce que j'étais tellement obsédé par mon rêve que, tu sais, ça a été comme... Parce que, dans le fond, les producteurs, puis c'était adéquat, puis je m'entends super bien avec. Moi, je ne savais pas c'était qui, Guylaine, à l'époque, en juin 2013.
Comment tu la décrirais, en fait, pour les gens qui ne la connaissent pas?
Elle a un bon fond. Elle a un bon cœur. C'est pas quelqu'un de méchant aucunement. Mais
c'est lui qui est quand même bienveillant. Qui...
Elle a un bon cœur, ouais. Mais elle a des beaucoup de problèmes de consommation. Puis elle a un comportement erratique. Tu sais, ça.
Elle a pas d'inhibition.
Quoi?
Elle a comme pas d'inhibition.
Ouais, c'est ça. C'est comme une. Elle a pas de filtre. Puis comme elle dit des choses qui sont complètement erratiques.
Mm-hmm.
C'est ça.
Ça remonte à quand, ce film-là, Eric?
Juin 2013.
OK, 2013.
Ouais, 10 ans.
Puis comment ça s'est fait? Comment t'en es venu à avoir une scène avec
Ben, le propriétaire d'AD4 à l'époque, parce que c'était une compagnie naissante, ils ont commencé en 2008, ils faisaient de la distribution, puis en 2012, ils ont commencé à faire de la production. Puis leur premier film à grand succès, bien connu, c'était Matricule 728. So, eux, ils voulaient se mettre sur la map. Puis là, Guylaine Gagnon, c'était un phénomène que moi, je ne savais pas à l'époque sur les réseaux sociaux. C'était Facebook, la plateforme à l'époque. Au début des années 2012-2013, c'était Facebook. Puis on dit, tu sais, Rick, si tu tournes avec Guylaine Gagnon, je vais te faire tourner avec les plus grandes vedettes. Puis j'ai peut-être une possibilité de t'amener à Las Vegas aux Oscars de la porno.
Oh!
So, je dis, OK, let's go, je vais y aller. C'est qui Guylaine Gagnon? C'est-tu Christophe Lambert? T'sais, dans ma tête, c'est qui? Je vais juste me minder psychologiquement à faire qu'est-ce que j'ai à faire.
OK. Est-ce que les Viagra à ce moment-là existaient?
Oui, ça existe, ça existe depuis 1998.
Oh, OK.
Ça a été imploré sur le marché par Pfizer depuis 1998. Mm-hmm. Et okay. Cialis depuis 2003.
Hein,
tu connais vraiment toutes les dates. Est-ce que
ouais. Ah, oui, c'est que... ça. Ah, j'ai demandé en entrant, j'ai dit, es-tu surdoué parce que toi, tu retiens toutes les dates. Je suis un peu comme ça aussi, les dates, les chiffres, les numéros de téléphone. Mais c'est incroyable, là, t'as une mémoire incroyable. Tu lis beaucoup aussi.
Je lisais beaucoup, je recommence à lire, mais avec le mode de vie, comme je t'ai expliqué avant le podcast, tu sais, il y a beaucoup de stress, surtout en tant que créateur de contenu, beaucoup de politique, so, tu sais, ça affecte un peu ma santé mentale, mais là, je suis en train de me dire, là, j'ai recommencé à lire, je recommence petit à petit à avoir un mode de vie sain, mais c'est sûr que je vais mettre la lecture une priorité parce que mon but, c'est d'être... une personnalité publique, puis tout le temps parler de body count, puis de sexe. À un moment donné, j'aimerais ça être qu'un acteur porno puisse faire tomber le mur de Berlin, façon de parler.
Oui, de détabouiser le métier, puis l'arrière-scène, finalement.
Exactement, mais j'aimerais ça aussi être une...
Tu veux dire qu'on voit pas juste ton côté acteur porno du gars qui fait juste, avoir des relations, c'est ça, à gauche et à droite.
Je veux aider mon prochain, en étant intellectuellement, tu sais, j'aimerais ça, mettons, un jour, moi, ma politique, mais je suis ouvert d'esprit, je suis contre les armes à feu, mais c'est un jour, je pourrais avoir un speech avec le président des États-Unis pour enlever le Second Amendment, tu sais. Si je peux apporter un changement avec ma célébrité.
J'aimerais faire une différence.
C'est ça. Mais tout en étant intellectuel, pas... parce que je trouve, à un moment donné, aller dans des podcasts, parler de body count, puis ta plus belle baisse, à un moment donné, c'est comme...
C'est redondant.
C'est comme...
C'est pas éducatif.
C'est ratchet.
Ouais. Puis ton nom, Rick Hard, Comment est-ce que tu l'as trouvé, ce nom-là?
C'est mon prof de bio en 2003. À l'époque, je faisais même pas de porn. J'étais en sciences nature à cette époque-là. Puis j'avais un...
Ton prof de bio.
Ouais, c'est ça.
Au cégep.
C'est quoi le lien?
Je vais t'expliquer... J'avais je pense que le monde encore au cégep utilise ça en bio. On avait un gros livre, une brique, ça s'appelait le Campbell, puis t'avais tout, t'avais le système squelettique, le système endocrinien. Puis tu sais, j'ai détesté la bio là. Puis à l'époque j'avais un TDAH non diagnostiqué, puis j'avais de la misère à, tu sais, je passais sur la peau des fesses, puis je faisais des nuits blanches avant mes intras, puis mes finaux.
Moi aussi.
puis
mais c'est fou le talent qu'on a quand même de, on retient rien durant les ouais. cours, mais la veille d'un examen, moi à 3-4 heures du matin, je me lève, j'assimile toute l'information, je fais mon examen, puis j'oublie tout après.
Non, c'est exact. Je comprends. Puis à un moment donné.
C'est une TDA.
Et puis à un moment donné, ben, à cette époque-là, tu sais, je me masturbais beaucoup, puis c'était la genèse du reality porn. Puis pour calmer mes pulsions sexuelles, je me crossais en regardant des films porno, puis j'avais marqué « Hey, lui, il a fourré avec combien de filles? Lui, il a couché avec combien de filles? » Puis j'avais marqué « OK, le gars de Milf Hunter, il a couché avec peut-être 4000 films, Ron Jeremy à peu près. » Puis il est venu de sortir le film de... C'était un film indépendant, mais ça avait même marqué, c'était le film de Val Kilmer, Wonderland, sur l'histoire de John Holmes, qui est un grand acteur porno, mais qui est mort du sida puis a mélangé avec de la coke, là. Mais puis lui avait couché avec 14 000 femmes. Puis là, je mettais tous leurs noms, puis à un moment donné, mon prof de bio, comme parce que je lui demandais de l'aide pour qu'il m'explique la matière, la mitochondrie, le cytosol, puis tous ces acides à faire plate. Puis là, il voit les noms d'acteurs porno. Je dis, oh shit, je savais pas que t'étais comme ça. Puis moi, à l'époque, j'avais... 21 ans, il lui avait 26, puis tu sais, c'était un prof assez flyé, tu sais, il fumait du cannabis le soir, tu sais, avant que ça soit légal. Puis il a dit, oh, toi, tu devrais être acteur porno comme Ron Jeremy, tu devrais t'appeler Rick Harder, Rick Hard. Puis ça m'a juste pop-up dans ma tête. Puis 7 ans plus tard, j'ai mis ce nom-là quand j'ai travaillé pour Pégase.
Wow.
Ça, c'est arrivé en 2003, mais 7 ans plus tard.
Et là, si on parle de ton parcours scolaire, toi, tu as étudié pour être policier.
Ben, j'ai fait un bac, j'ai fait un DEC en sciences nature. Au début, je devais être ingénieur, mais j'avais pas une très bonne, tu vois, surdouée. J'avais pas une super bonne cotère en sciences nature pour être accepté à Poly. Alors, j'ai une cotère de 24. J'étais allé au HEC, haute études commerciales, mais j'ai fait un bac généraliste, administration des affaires.
Okay.
Puis après, c'était pas moi, pour moi, faire les jobs de bureau, je trouvais ça pas comme le fun. Puis j'ai dit, OK, ben je vais aller, vu que je suis un gars assez physique, assez actif, je voulais être policier. Puis j'ai été accepté en technique policière à John Abbott, mais malheureusement, quand j'ai commencé à faire des films porno pendant ma TP, puis pendant ma technique, puis tu sais, je me suis vanté à mes boys, puis ça a fait vite le téléphone arabe. Puis pour appliquer au SPVM, ils ont fait un genre de congédiement déguisé, là, que j'avais pas personnalité. Ça, c'est... Bon. Mais peut-être qu'en 2023, les mœurs auraient changé, je ne sais pas.
Ouais.
Mais j'ai pas de dossier, je peux traverser la frontière. C'est juste que
c'est
ça qui est arrivé. Là.
Avant d'aller plus loin, parce qu'on a tellement de sujets à aborder en lien avec ton métier, avec ta vie personnelle aussi, je pense qu'on va déjà aller à la pause. Et au retour, on va vraiment... J'ai vraiment beaucoup de questions pour toi.
Pas de problème.
Donc, je pense que je préfère me garder un long moment parce que je sens que ça va être croustillant et intéressant. Donc, restez avec nous, mesdames et messieurs. Vous êtes à l'écoute de La Sexploratrice sur les ondes de choix 98.1 Radio X.
La Sex.
La Sexploratrice.
Exploratrice. Avec Mel Trudel.
Radio X.
Vous êtes de retour avec La Sexploratrice sur les ondes de choix 98.1 Radio X. Et c'est le moment de vous parler de notre fameux projet caritatif Le Sapin Radio X qui est de retour pour une troisième année au profit de la Fondation du CHU de Québec pour le Centre Mère-Enfant. Donc, depuis le 29 novembre, le Grand Sapin est érigé aux Galeries des Capitales pour la période des fêtes et la population est invitée à faire un don pour que les lumières de ce sapin brillent de 1000 feux. Les dons serviront entre autres à adapter le service de radio-oncologie au Centre intégré de cancérologie à la clientèle pédiatrique. Ça va servir aussi à aménager des salles d'attente et des espaces de traitement pour mieux accueillir et traiter les enfants malades. Parce qu'actuellement, les enfants sont traités dans un espace qui est destiné principalement aux adultes. Donc, un enfant, on va se le dire, ça reste un enfant. Et malade ou pas, un enfant veut jouer. Un enfant veut s'amuser, ça a besoin de couleurs et on veut adapter ces salles-là pour optimiser l'expérience patient puis avoir des équipements et des vêtements beaucoup plus appropriés, par exemple, à leur taille. Donc, ce serait vraiment très apprécié, mesdames et messieurs, de donner généreusement un simple don de 10$ en textant « sapin » au 418-670-9098. Même chose, si vous avez des questions pour notre invité ce soir, qui est Rick Hearn, c'est au 418-670-9098. On vous invite à donner, sinon c'est via le sapin.radiox.com et on vous remercie sincèrement. Moi et Max, on veut justement vous offrir un petit quelque chose d'ici la fin de la semaine. Parmi toutes les personnes qui vont avoir donné, on va faire tirer des trucs. Et il y a déjà des prix là, qui ont été tirés la semaine dernière. Donc, merci beaucoup pour votre grande générosité. C'est très, très, très apprécié. On poursuit avec notre invité, Rick Hearn, qui est avec nous ce soir. Rick, qui est un acteur pornographique conventionnel, mais également créateur de contenu sur OnlyFans. Rick, comment décrirais-tu la différence entre acteur porno conventionnel et créateur de contenu sur OnlyFans?
Acteur porno, c'est que les deux ont des avantages puis des désavantages. Acteur, c'est des boîtes de production qui t'engagent. Mettons, on va dire, tu as une scène samedi à 13h, tu te pointes à 13h, il y a une maquilleuse, dépendamment des boîtes de production. Qui ont un plus gros ou plus petit budget, mais tu as comme une maquilleuse, tu dois signer des contrats, tu dois signer des modèles release, tu dois te faire filmer comme quoi que tu as un consentement, que tu es majeur et vacciné, que tu n'es pas sous l'influence de substances illicites, puis que tu es consentant.
Et que tu as passé des tests, que j'imagine,
MTS? Ça dépend des compagnies. Des fois, c'est libre aux performeurs.
Ah, OK.
Puis des fois, certaines compagnies exigent... certaines compagnies qui ont comme... qui ont plus de budget vont payer les tests au privé pour les performeurs.
Toi, est-ce que tu es à l'aise de performer sans protection?
Oui, mais parce que c'est un petit milieu, puis tu sais, si quelqu'un donne de quoi, ben ça va faire vite le tour.
T'sais. Mais est-ce que c'est pas un peu risqué, tu sais, disons que tu joues avec...
Le feu, non, parce qu'à un moment donné, tu sais, je peux prendre mon auto puis me faire écraser par un auto. À un moment donné, on va jamais...
Mais tu pourrais pas, disons qu'elle a la chlamydia... Toi, t'es safe avec elle. Et là, finalement, elle te dit « Hey, j'ai la chlamydia, c'est peut-être de toi. Il n'y a personne qui ne peut rien prouver. »
Ben, je veux dire, comme je te dis, le monde, comme avec de grands pouvoirs, vient de grandes responsabilités. Mm-hmm. Le monde, les compagnies ne vont pas comme prendre le risque de prendre des personnalités à problème.
T'sais. OK.
T'sais, je veux dire,
c'est bon.
Des fois, c'est libre aux acteurs.
Oui.
Certaines compagnies qui ont plus, je te dirais, de budget vont payer les tests au privé.
D'accord.
Mais la différence, comme tu signes un contrat, aussitôt que tu as signé, ton contenu appartient à la boîte de production.
Tu n'as plus aucun contrôle.
Tu n'as plus aucun contrôle, mais tu as une somme forfaitaire. Tandis que créatrice de contenu ou créateur de contenu, c'est la fille ou le gars qui devient producteur. Mais ce n'est pas régi par un ordre. Il faut juste que tu mets ton mail, OnlyFans, @mail.
C'est ça.
L'avantage de OnlyFans, c'est que c'est la fille qui a le pouvoir. C'est démocratisé. Comme dans le temps, il y avait certains producteurs, j'en ai pas connu à Montréal, mais il y a plein d'histoires d'horreur aux États-Unis.
On parlait de porno non éthique versus porno éthique.
Non, des producteurs comme des Weinstein, qui vont utiliser leur pouvoir. Ben, si tu veux être sur le cover de tel DVD, ben, il faut que tu me suces.
Oh.
Avant, il y avait beaucoup de ce genre d'abus-là. Avant le hashtag MeToo.
OK. Maintenant, il y en a moins.
Il y en a beaucoup moins, mais là, l'affaire, selon mon expertise que j'ai vue, le problème avec OnlyFans, c'est qu'il y a certaines filles qui vont jouer aux juges et aux jurys, qu'il y aura beaucoup de politique. Là, maintenant, comme vu que c'est plus régi par un ordre, tu peux facilement avoir, comme je ne suis pas gêné de le dire publiquement, si Rick Hearn serait un Afro-Américain qui habite dans un HLM et qui n'a pas d'argent pour avoir un bon avocat au privé, puis qui est un avocat de la juridique, puis il y a des filles qui sont jalouses de moi ou qui ne m'aiment pas, pourrait dire que Rick, même s'ils ont été consentantes, il m'a peut-être violé. Puis là, je pourrais avoir de fausses accusations, puis, tu sais, je veux dire, ça peut aller là tu sais, une campagne de salissage, parce qu'il y a certaines, des fois, des filles, puis je trouve ça, c'est correct, ils font des groupes chat, tel caméraman est correct ou tel acteur est correct, mais il y a certaines filles, ils vont pas aimer la face à quelqu'un, puis ils vont dire « Non, ce gars-là, il est trop intense. » Mais tandis que l'autre gars, il est correct parce qu'il est 6 pieds 2 avec des muscles, mais il vend de la dope.
OK, comme il n'y a pas d'ordre, les filles, entre eux autres, se font des petites guerres pour essayer d'influencer ben, les scores des autres pour avoir
exactement,
plus de visionnement les unes que les autres.
C'est exactement. Puis c'est là où est-ce que ça devient extrêmement toxique. So, là, moi, quand je fais du OnlyFans, ben, je travaille avec mes amis.
Okay.
Comme si j'étais au cégep, comme l'émission Friends. Là.
Ouais.
On est des amis, on sait qu'on ne va pas se backstabber, on sait que dans 3 mois, tu ne vas pas me chier dessus, tu vas me dire « Ah, oh, ben là, je veux que tu enlèves mon contenu. » Ça, ça m'est déjà arrivé, puis ça arrivait à plusieurs personnes. Sont comme... Là, je développe une relation amicale sans bénéfice. Puis après ça, si tu veux faire du contenu sexuellement qu'on se respecte, OK, ça, c'est comme ça que moi, j'opère. Mais souvent...
Est-ce que vous signez des décharges entre vous?
Ça dépend des filles. Mais okay. Des filles que je fais vraiment confiance, qui ne vont pas me backstabber, je ne le signe pas. Je fais juste « at OnlyFans ».
OK.
Tu sais, mais ça m'est déjà arrivé de travailler avec des filles à problème. Puis à un moment donné, j'ai dit « OK, si tu veux aller là, let's go, on va aller devant la justice. Go ahead, make
selon ton expertise, Eric, là, justement, ça fait longtemps que tu es dans le métier. C'est quoi la proportion, selon toi, de filles à problème, justement, de gens qui sont dans ce milieu-là, qui sont pas nécessairement stables?
Qui sont toxiques.
Exact.
Ben, je ne veux pas généraliser, parce que si je dis ça, là, hey, toutes les filles sont toxiques, je vais me faire haïr, là, je vais être sur la place publique.
Moi, je comprends, mais nous, de l'autre côté de l'appareil, c'est un peu le feeling qu'on a quand même.
C'est vrai qu'on
ben,
a
c'est
ce
du, feeling-là. C'est du cas par cas, tu sais, je veux dire...
Mais est-ce que notre feeling est bon?
La vérité, malheureusement, c'est une triste réalité. Il y en a beaucoup de... Autant des gars, pas juste des filles, il y a autant des gars à problème que des filles à problème.
Okay. Il y en a beaucoup.
Parce qu'il y a des gars, il y a des amitiés qui vont se faire perdre juste pour des pulsions sexuelles. Exemple, je vais donner un exemple, Max, OK? Moi puis toi, on est des chums, OK? On s'est rencontrés dans le milieu. Puis, on va dire, telle influenceuse, elle préfère tourner avec... Max qu'avec moi. Elle trouve qu'elle préfère le corps à Max, l'attitude à Max. Puis moi, je suis un gars qui est jaloux de Max parce que Max, alors moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un assassinat de caractère sur Max. Oh, j'ai vu à un moment donné, Max, il parlait intense, il était violent.
Bon.
Tu sais, je vais commencer à prendre une petite affaire puis l'exponentier. Parce que toi, t'as mis ta graine dans la plotte à une belle fille.
Ah, OK. Ouais, puis là, je tiens à préciser que tout ça, hein, c'est pas vrai.
Ce n'est que fiction.
Non, c'est ça, c'est ta figure.
Je comprends. Alors, il y a beaucoup d'atteintes à la réputation qui se font.
Il y a beaucoup
depuis. C'est des jeux de coulisses, là, autrement dit.
C'est ça, c'est vraiment beaucoup d'échos de vestiaire, mais ça, c'est depuis le milieu. C'est depuis que OnlyFans est arrivé, mais c'est aussi les réseaux sociaux. C'est facile de blâmer OnlyFans, mais les filles sont plus safe à OnlyFans que dans le temps où est-ce que certains producteurs. Qui faisait comme des Weinstein, tu sais.
Okay. Je vais être sur le cover, mais là, il faut que tu me dises.
Il y en a eu plein d'histoires. Il y a même un documentaire sur Netflix. Tu sais, il y a des pour et des contre. Mais ce que j'aime pas, c'est que les relations sur OnlyFans deviennent extrêmement superficielles. C'est qu'une fille voudra travailler avec une autre fille si seulement elle est top 1%.
C'est vrai, on voit ça.
Pour moi, que je m'en colisse que tu sois top 1%, tu peux être un enfant de pute. Excusez-moi des mauvais mots. Mais si t'es correct, que tu respectes, si tu respectes le monde, tu mens pas, tu voles pas, puis t'es quelqu'un de correct, je vais travailler avec toi. Mais si t'es top 1%, puis t'as un caractère extrêmement exécrable, I don't give a fuck qui tu es, genre, ça, je m'en fous.
OK.
Get the fuck out of here.
Mais t'es quand même quelqu'un, bon, premièrement, qui est authentique. Moi, je t'ai vu arriver tantôt, puis j'étais comme, j'ai l'impression de te connaître. Mm. Parce que t'es la même personne en personne que... ça a été ça. C'est ce que j'ai perçu lors de nos discussions et de ce que je vois sur les réseaux. Puis t'es quelqu'un aussi qui semble avoir de belles valeurs.
Ouais.
Et au niveau de l'amour, ta vie intime...
Ma vie intime, moi, je pense que ton cœur peut chatouiller selon... Ça, c'est selon moi, l'amour, il faut que... You have to fight for love. Oui, dans un couple, tu auras des hauts et des bas. Puis je trouve, dans le milieu OnlyFans du porn, c'est comme aussitôt qu'il y a une chicane, c'est fini. C'est comme, j'ai vu plein de filles, c'est l'amour de ma vie. Puis 2 mois plus tard, comme, c'est fini là. Puis
c'est
là,
des relations superficielles.
C'est des relations éphémères, superficielles. Puis tu sais, j'ai beaucoup de respect pour Hélène, mais tu sais, à un moment donné, la saga Hélène puis Jesse Jones, là, fuck, c'est, on se croirait dans...
Hélène, avec qui t'as tourné, d'ailleurs?
Pas OD, c'est plus General Hospital sur les stéroïdes. Là. C'est comme feux de l'amour. Là. C'est comme je veux pas être méchant, mais ça avait l'air d'un white trash, ça, pour
Est-ce que tu penses que, justement, parce que les créatrices et les créateurs de contenu fourniquent beaucoup ensemble, ça devient un peu des amours jetables, puis à la moindre occasion qu'ils ont de jeter les ponts à terre, ils font?
C'est tout à fait ça, Max. Puis l'affaire, qu'est-ce qui me gosse, c'est que tu laisses ta communauté dicter tes amis puis ton amour. Moi, ça me rend agressif, là, comme des jugements. Moi, là, si mon ami, là, c'est mon ami, puis qui travaille au McDo, là, Ray, là, Rick, il se tient avec on va dire un nom fictif, Abdel, tu sais, un arabe comme j'arabe. Ah, ici avec Abdel, puis Abdel, là, regarde, bro.
Comme si on était à la petite école.
Ouais, c'est vraiment l'école secondaire, regarde. Abdel, il est correct avec moi. Abdel, il me fait pas chier. Puis moi, je suis en couple depuis le mois de d'août, puis ça n'a pas été facile dans mon couple, là. Je dis, garde,
moi, c'est les commérages.
Les commérages, là, puis comme moi, je peux le dire, moi, je m'en fous, je vais le dire. Je peux-tu laisser mes émotions?
Tu peux laisser tes émotions, mais il ne faut pas que tu oublies que tu es TDAHI. Ouais, okay, ouais. On en a parlé avant les ondes, donc, mais tu peux.
C'est quoi
mais...
ça, TDAHI?
OK, excuse-moi.
C'est de l'attention avec hyperactivité et... hypo-impulsivité.
Ouais, non, mais c'est quoi ta
Donc, on est des impulsifs émotionnels. Donc, parfois, on a tendance à expliquer des choses sous le coup de l'émotion, mais à regretter. Donc là, je ne fais que parler et gagner du temps pour laisser le temps à Rick de vraiment assimiler est-ce qu'il devrait ou non nous partager ce qu'il a envie de nous partager.
Ben, je vais pas aller dans les détails, mais il y a quelqu'un qui avait essayé de faire une autre créatrice de contenu qui a essayé de faire attaque à la réputation à ma blonde. Par pure jalousie.
Wow.
Puis moi, je dis, je m'en fous qu'on me cancelle. J'ai plus peur du culture de cancel parce que je sais que je suis un bon gars.
T'es authentique.
Ouais,
donc
puis même si je fais ça, je crois au Christ. Là. J'essaie pas de convaincre le monde à croire en Jésus, mais moi, mes valeurs viennent de là. Je suis quand même.
Moi aussi, je voulais être sœur quand j'étais jeune.
OK, non, moi, je voulais pas être sœur, mais je veux dire.
J'ai switché à 14 ans.
Mais je veux dire, pour moi, c'est important de ne pas mentir, de ne pas voler. Oui. Quand il y a quelqu'un qui a essayé de faire du mal à ma blonde, qui était une top 1%, moi, j'ai dit, garde, tu refais ça, moi, je te sors des épées légales. Là. Dans un sens, c'est pas une mise en demeure. Je vais aller comme légalement attraper ton tendon d'Achille.
Aïe, aïe. OK. Tu es en couple, donc, avec une femme
qui fait du créatrice de contenu.
Qui est créatrice de contenu sur OnlyFans. Elle ne fait pas de porno.
Non, elle veut pas que son image soit vue comme... sur les sites, exactement.
OK, parfait. Donc, elle est créatrice de contenu. Et tu me disais que tu te considérais comme étant monogame, émotionnel, mais polygame, sexuel dans un cadre professionnel.
Exactement.
Dieu, attends, on t'explique ça. Je suis pas certain de tout comprendre.
Parce que l'affaire, c'est que tous les clients des travailleurs de sexe, c'est souvent des hommes mariés du monde qui sont insatisfaits sexuellement, puis que... À un moment donné, quand tu es en couple avec la même personne pendant 20 ans, 30 ans, tu te tannes sexuellement. Tu veux aller voir de la dopamine cheap en allant comme coucher ailleurs. Puis moi, ça me tentait pas d'être...
Comme les animaux polygames, finalement. C'est ça. Tu vas réactiver un peu là, toute la chimie de l'amour.
Exactement.
La sexualité.
Moi, ça me tentait pas d'être un gars qui trompe sa femme en allant dans un bar de danseuse ou qui aille chercher des services sexuels. Je me suis dit, ça me dérangerait pas de sortir avec une actrice porno ou une créatrice de contenu qui tourne avec d'autres gars, mais que le gars respecte moi, que les créatrices respectent notre union, puis que ça se fasse, ta vie sexuelle se fasse sur caméra comme de façon cartésienne. OK, telle date, tu sais que tu vas faire tel contenu. Ça, c'est correct. Mais j'irai pas comme...
Dans un club libertin.
Le club libertin, mettons, à la dernière minute, aller dans une boîte de nuit, c'est correct, on est un couple ouvert. Moi, l'amour, je pense pas que c'est un couple. Moi, selon mes valeurs à moi, l'amour, c'est pas un couple ouvert. Pour avoir une famille, acheter une hypothèque, c'est quoi, on a un couple ouvert, on va partager nos finances ouvertement. OK, toi aussi, tu peux prendre mon cash rendu là, tu sais.
OK.
C'est comme, moi, ma blonde, c'est comme, l'union pour moi, c'est ma meilleure amie.
Vous vous êtes rencontrés comment, toi et ta conjointe?
J'ai flirté avec elle sur Instagram, puis c'est arrivé... comme à m'intéresser. J'ai dit, garde, I'm looking for a girlfriend, est anglophone, puis genre, I would like that to be my girlfriend.
Est-ce qu'elle était déjà créatrice de contenu
ce
moment-là?
Oui, je voulais prendre quelqu'un qui comprend la game.
OK.
Je voulais pas prendre quelqu'un qui, que je dois lui apprendre ça, like, she knows how the game works.
Est-ce que c'était primordial pour toi d'avoir une femme dans ta vie qui faisait du OnlyFans?
Oui, parce que ça me tentait pas de sortir avec une fille qui est comme...
Une moldue.
Une moldue, le nouveau terme que j'ai appris.
J'ai appris un terme à lui aussi tantôt.
Puis j'ai essayé de sortir avec des personnes qui font des moldues. Parce que, tu sais, moi, mon genre de femme, je veux une femme qui est indépendante. J'aime personnellement les femmes qui se font vivre par un gars. It's not my thing. Je veux une femme... Je veux une genre de... Un power couple, Beyoncé, Jay-Z, Obama, puis Barack, Angelina, puis Brad Pitt. C'est ça le genre de couple que je veux être avec ma copine. T'sais, on a nos deux carrières distinctives. Et ma copine, quand je sortais avec des... quand j'allais sur Facebook Dating, pour me chercher une relation sérieuse, je leur disais mes passions. Au début, ils me trouvaient ça cool. J'étais comme un genre de bad boy criminel, mais je conduis une Corolla, tu sais. Puis on couchait ensemble.
Pas grave, c'est les meilleurs chars, ça dure longtemps.
c'est ça. On couchait ensemble, mais quand ça venait à me présenter leur famille, à être sérieux, ils voulaient pas. Soit j'étais juste un boyfriend éphémère. Soit là, moi, je suis plus capable.
Mais c'est-tu possible, Rick, pour toi, tantôt, tu parlais d'une distinction entre ta vie personnelle et ta vie professionnelle. C'est-tu possible de traiter le métier de pornstar comme un métier de 9 à 5 où tu punch in, tu punch out, puis that's it, il n'y a pas d'attachement, même s'il y a des échanges de fluides?
Oui, il faut avoir une force mentale. Mais moi, tu sais, c'est comme si tu veux durer longtemps, don't fuck with the payroll. Je veux, comme, va pas,
ben,
pas
en fait, c'est ça la job, là. Faut que tu fuck avec le payroll.
Oui, devant la caméra, mais si tu commences. Je suis pas parfait, je suis pas en bois, mais je veux dire, comme, si tu commences à coucher avec les modèles en dehors des tournages, en dehors des contenus, puis que tu commences à envoyer des sextings, ben, à un moment donné, ben, comme le.
C'est
le,
quand même risqué. Ça va affecter
ton image, ça va affecter les filles. Faut que les filles se sentent en sécurité avec toi.
Mais est-ce qu'il t'est déjà arrivé, après une scène, une fois les caméras éteintes, c'est d'avoir une attraction, une attirance envers une femme et de...
Puis honnêtement, ça m'est arrivé peut-être 5-6 fois en 13 ans, puis je le regrette à chaque fois.
Ah oui.
Parce que j'ai été justement impulsif.
OK.
Parce que ça a comme effrité le lien. Je peux être ami avec, sans bénéfice, mais quand ça a comme effrité le lien professionnel. Puis là, ça a comme créé un genre de moment... Malheureusement, les relations ont terminé en queue de poisson.
Et on parlait de ta deuxième vie, si on veut. Tu étais à l'aise de parler de ça.
Oui, mais je n'irai pas les détails de mon emploi.
Non, on n'ira pas dans les détails. Mais donc, actuellement, tu tournes encore des films porno conventionnels à l'occasion. À l'occasion ou...
Je te dirais assez périodique. Okay. Deux fois par mois.
Deux compagnies distinctes.
Puis avec AD4, une fois ou trois mois. Et entre-temps aussi, je fais de la création de contenu avec des filles OnlyFans.
OK. Donc, tout ça, plus...
plus mon 9 à 5.
Plus ton 9 à 5. Donc, tu as un travail 9 à 5. Ouais. Est-ce que c'est parce que tu as un niveau de vie très élevé ou c'est vraiment que c'est pas ce
c'est
qu'on
pas
pense?
Rentant, c'est pas ce que vous pensez. Il n'y a pas d'avantages sociaux. Tu n'as pas d'assurance. Quand tu prends de l'âge comme moi, tu vas avoir un RER, tu vas faire un RAP pour acheter une maison, un régime d'accès à la propriété. Les banques, ils s'en foutent. Il faut que tu aies un bon crédit, il faut que tu ailles... alors, le 9 à 5 me donne une stabilité financière et les avantages. Tu peux pas... C'est très difficile pour un gars de gagner sa vie de ça.
Ah oui?
Ouais,
mettons, là, sans rentrer dans les chiffres précis, on te parle de combien comme montant pour tourner un film dans une compagnie?
Le plus petit montant par un film est le plus haut.
Même si t'es Brad Pitt, le prix fixe d'une compagnie, c'est le prix fixe.
Ah oui?
Que tu comprends? C'est pas parce que j'ai 13 ans d'expérience qu'on va me payer plus cher.
Ah oui?
Tu comprends?
OK.
C'est par contre ma réputation. Mon capital, mon retour d'investissement vient avec ma réputation et ma stabilité. Mais au niveau monétaire, non. Puis, OnlyFans, c'est comme tu peux faire autant beaucoup de revenus comme tu peux faire presque rien. Puis c'est du travail, là, comme...
Fais-tu à l'aise de dire dans quel chiffre le maximum que tu as déjà fait un mois ou...
OnlyFans, je te dirais le maximum que j'ai fait pendant une certaine période, mais, tu sais, puis c'est beaucoup de travail, c'est comme 1000 $ US par mois, tu sais, c'est pas assez...
C'est vraiment beaucoup, comme Alison Queen nous a parlé, Ordon m'avait dit aussi combien elle faisait par mois, puis je me disais... Mais mon Dieu, mais pour tout le travail que tu fais, c'est pas beaucoup.
Non, mais...
On entend des histoires, mais des filles qui ont un following incroyable là, sur les réseaux, des histoires de 20 000 par mois, des trucs comme ça, mais c'est occasionnel.
Ça va être plus difficile pour les hommes aussi de faire de l'argent sur les femmes que les femmes. Là.
Ouais, exactement. Moi-même, si tu fais du gay, il faut, comme Hélène Boudreau, je vais donner à César qu'est-ce qui va appartenir à César.
Ouais.
Hélène Boudreau, elle a très compris l'aspect marketing et tout. Puis elle a fait beaucoup d'argent. Mais par contre, tu sais, puis je l'aime bien, là, Hélène. Oui. Mais
est-ce que tu as tourné avec Hélène?
Oui, j'ai tourné avec elle.
OK.
Oui. Ben, elle était super professionnelle, super cool.
Comment c'est arrivé, ça?
J'ai fait un peu comme... j'ai jeté une bouteille à la mer à chercher des hommes qui voulaient se faire dominer, sodomiser. Puis moi, je voulais... je lui ai écrit un courriel. Je lui avais montré une de mes scènes où est-ce que je me faisais, entre guillemets, sodomiser. Ça, je lui ai dit, est-ce que je suis pris? Elle me dit, ouais, OK, viens, telle date un château, une belle place, là, le château, pas Versailles, là, mais à Châteauguay.
Le manoir.
Le manoir, c'est ça.
Oui.
Puis c'est avec Sonia Van Sacher, puis elle. Oui,
Sonia qu'on a reçue ici
ouais,
aussi.
Oui, puis ça a été fait. Puis j'ai tourné avec elle dans un sens à m'en sodomiser. J'ai tourné avec elle, ça a super bien été. Puis par contre, comme...
Elle portait un strap-on?
Oui, elle portait okay. un strap-on et tout. Et par contre, qu'est-ce que, tu sais, qu'est-ce que, puis ça, j'ai beaucoup de respect pour Hélène, mais elle fait peut-être beaucoup d'argent avec son OnlyFans, mais j'en vis pas son mode de vie, parce qu'on mm-hmm. dirait que c'est tout le temps dans du drama, tu sais, comme, tu sais, j'adore Tom Cruise, OK, mais Tom Cruise, tu sais, il est payé 30 millions à 40 millions, il travaille fort, il fait son film Top Gun, puis à part de ça, on n'entend pas parler de lui, à part ses trucs.
Mais il peut rien faire, ces personnes-là peuvent même pas sortir faire l'épicerie.
Ça, OK, ça, ouais, mais tu ce que je veux dire, c'est comme quelqu'un comme tu sais Tom Cruise, il a pas l'air d'être dans du drama pour gagner
non,
sa vie.
Non, effectivement.
Sauf comme il fait son film, il fait son art.
Oui.
Il travaille fort, ça finit là. Mais on dirait que comme quelqu'un comme Hélène, il faut que pour que tu fasses de l'argent,
oui.
il faut que tu alimentes le drama. C'est mais ça. Après ça, genre c'est quoi, tu as tout ton argent, tu vas le mettre dans je dis pas qu'elle la consomme, mais moi quelqu'un qui est fragile émotionnellement, tu vas la mettre dans la consommation, oui. puis les antidépresseurs.
Dans le milieu, c'est quoi la proportion de gens qui consomment? De la drogue. Est-ce qu'il y a une drogue en particulier qui est plus populaire
ben,
que d'autres?
Je te dirais la drogue la plus répandue, c'est le cannabis.
OK.
Ceux qui font plus d'argent, c'est la cocaïne.
OK.
Ouais.
Puis ça swallow ton âme.
Puis moi, il y a une question, en parlant de drogue, il y a une question qui me fascine depuis longtemps, mais j'ai toujours eu cette interrogation-là par rapport au métier de pornstar. Est-ce que vous prenez des Viagra? Et en sous-question, est-ce qu'il vous arrive de vous faire des injections dans le pénis pour maintenir
oui,
les érections
oui,
durant
compagnies, vos soins? Les compagnies professionnelles, quand il y a beaucoup d'acteurs qui font du gay for pay, qui sont hétéros, mais ils veulent faire de l'argent rapide, dans le sens rapide, l'argent rapide, comme pas du blood money, mais être payé 1 000 $ en tournant avec un gars. Soit ils vont prendre une injection de soit du Afrodazil ou du Trimix. C'est une prescription que tu prends avec un urologue. Et le Trimix, tu as quatre types de drogues. Puis tu t'injectes ça dans le pénis. Puis ton érection dure un peu. Tu peux bander. Tu peux avoir une érection même sur un cadavre. C'est automatique. Tu n'as pas besoin.
Puis ça dure combien de temps, l'érection?
Okay. Ça dépend de la dose que tu prends. Mais okay. si elle dure plus que 4 heures, tu peux être subjugué à du priapisme. Puis tu dois prendre une antidote.
Oui, parce que j'ai déjà lu, en fait, qu'une érection qui dure plus de 4 heures peut créer des dommages irréversibles.
Oui, au pénis. Puis au tu pénis peux, tu, alors, au... alors, comme là, tu peux prendre une solution là, comme pour, puis, pour comme, contrer l'effet, pour faire baisser l'érection.
OK.
Mais, tu sais, moi, quand tu fais ça, moi je prends tout mon Viagra, mon Cialis, moi, je vais voir un neurologue au privé.
OK.
Dr. Steinberg, c'est le meilleur. Elle a santé
sexuelle. Steinberg, ça me rappelle. Ouais, c'est...
Mais
alors,
il est vraiment...
Alors, t'as besoin d'en prendre pour faire tes seins?
Ça dépend. Quand c'est du OnlyFans, pas nécessairement, parce que c'est comme... C'est plus personnel. Mais quand c'est des grosses, méga productions...
Et puis, il y a 40 personnes sur le plateau.
Peut-être pas 40 personnes, non. mais quand c'est plus, tu sais, des plus
gros... Il y a combien de personnes sur un plateau quand vous
Ça peut varier de que moi, toi, moi, la fille, puis le caméraman.
Ah, juste ça!
Ça, c'est les petites productions, puis t'as des grosses productions, moyennes productions. Moi, toi, le caméraman, le helper, on est 4. Puis les grosses productions, on est peut-être 5-6 personnes.
Oh, hey, j'imaginais que c'est plus que ça. Un percheur, ouais. la lumière, trois caméramans.
Mais tu sais, il faut... c'est plus psychologique. Logique, tu sais, il y a des gars qui sont plus forts mentalement, qui vont... Mais tu sais, souvent, c'est plus, je te dirais, le problème érectile, c'est ton mode de vie, tu sais, parce que tu peux... Si t'es un gars qui fume 3 packs de smoke par jour, puis que tu oui. manges de la scrap, puis que, tu sais, le Viagra va pas être un miracle, là.
Ouais. Non, puis c'est ça, puis hors contexte... En fait, si vous prenez du Viagra, mais que vous avez pas, vous n'êtes pas dans l'émotion, vous n'êtes pas dedans, ça ouais. lèvera pas plus.
Non, là. C'est ça, puis tu sais, il faut vraiment que tu sois... Que tu sois zen, il faut que tu l'affaire, qu'est-ce qu'il faut que tu t'entends, il faut que tu essaies de t'entendre bien avec tout le monde, avec la partenaire puis avec tout le monde, tu sais.
Ouais, est-ce que t'es déjà arrivé d'avoir une scène où la partenaire ne semblait pas à l'aise et que c'était comme le producteur, c'est ça qu'il voulait, puis.
Ben, ça m'est arrivé quelques fois, mais c'était pas nécessairement à cause de la partenaire, c'était plus le concept des trucs dans ma vie personnelle, okay. puis. C'était plus comme l'atmosphère, tu sais, comme une mauvaise journée au travail, puis mm-hmm. la partenaire a été comme un peu intoxiquée, c'était pas le fun, tu sais. Ouais. C'est du cas par cas, je te dirais.
OK. Ouais. La scène la plus agréable que tu as eu à tourner, une marquante pour toi, ce serait laquelle?
La plus agréable, bonne question. J'en ai eu plusieurs. Des fois, ça a été avec des personnes moins connues, puis c'était sexuellement vraiment agréable parce okay. que tu sais, a été passionnée, puis tu sais, c'était pas une fille qui voulait comme il y avait une connexion sexuelle. Je te dirais, là, une des scènes que j'ai vraiment aimé tourner. Dernièrement, j'essaie de réfléchir. J'en ai eu plusieurs, mais comme une qui me vient à l'esprit, j'ai bien aimé travailler avec une qui s'appelle Miss Gamelin. Elle a vraiment une bonne énergie sexuelle, puis qu'elle est vraiment dedans.
OK.
Mais tu sais, comme tu dis, c'est du cas par cas, c'est subjectif.
Puis si on va de l'autre bord, si tu avais eu quelque chose à refaire durant ta longue carrière, ça aurait été quoi? Est-ce que tu as des regrets aujourd'hui, Rick?
J'ai des regrets plus dans le manière. Je me suis tenu avec des gens que je pensais que c'était mes amis puis qui m'ont backstabé. C'est plus dans ce sens-là que parce que c'est souvent comme des relations superficielles puis j'ai perdu beaucoup d'énergie mentale et de l'argent avec des gens que je pensais que c'était mes chums d'amis. Tu sais que genre comme j'allais dans les bars avec la bouteille puis c'était tous mes chums puis finalement c'est pas ils s'en foutent de toi. Ils étaient amis avec moi parce que je suis Rick Hard et non parce que je suis Richard, qui aime juste avoir des amis.
Tu fais des arts martiaux aussi?
Oui, je fais de la... C'est à cause du monde du porn que j'ai commencé à faire ça.
Comment c'est arrivé?
Ben, parce que c'est une culture... Il y a beaucoup de gens méchants, malheureusement. Tu sais, vous, les bars de danseurs, c'est la réalité. Ça attire, c'est souvent des vendeurs de drogue, des gens...
Les bars de danseuses?
Les bars de danseuses. Mais tu sais, il y a beaucoup d'actrices porno qui sont danseuses. Puis oui. Ça attire... des gens
mal intentionnés,
méchants, une culture d'intimidation. Puis moi, un de mes rêves d'enfance, c'était d'être bodybuilder, là, comme Arnold.
Okay.
Mais à cause, puis je suis pas gêné de le dire, j'ai pris des anabolisants, j'avais fait une compétition de culturisme en 2013.
Oui, c'est ça, parce que tu as déjà été très, très...
très musclé, mais j'avais pris des anabolisants avec un coach et tout. Mais j'ai la raison pourquoi j'ai arrêté, parce que je voulais pas affecter mes problèmes érectiles, tu sais. Parce que pour faire du bodybuilding, être professionnel, à moins que tu fasses des compétitions comme naturelles, mais pour être comme Arnold là, en 2023, il faut que tu fasses Mr. Olympia, puis tu n'as pas le choix de prendre des anabolisants.
Puis déjà que la testostérone est dans le piton dans tes entraînements et tout ça, donc j'imagine qu'il n'y a plus de libido.
C'est parce qu'après, en tout cas, ça, c'est un peu pharmacologique, mais après ça, parce que tu t'injectes de la testostérone exogène, mais après ça, tu dois prendre une antidote après ton cycle, puis ça finit plus, là. Puis après ça devient du bro science, tu sais.
Puis tes muscles, après tout ça, est-ce qu'ils ont retrouvé leur...
Oui, une chance, parce que j'ai pas pris des grosses doses élevées.
Okay. Parce qu'ils auraient pu devenir flag.
J'aurais pu avoir des problèmes érectiles. J'étais allé voir le médecin faire mes tests, une chance. J'ai arrêté au bon moment.
En mode prévention.
La raison pourquoi faire de la boxe, pourquoi je me suis plus intéressé à faire des arts martiaux.
C'est du kickboxing ou de la boxe?
De la boxe. Au début, je faisais du MMA, mais là, tu sais, j'ai vraiment trouvé une passion pour la boxe.
OK.
Avec certaines actrices ou acteurs porno, il y en a souvent qui vont jouer à de l'intimidation psychologique. Là, moi, je me suis dit, la meilleure façon de ne pas me laisser faire par les gens mal intentionnés, c'est de contrôler le je ne sais pas le dire en français, le fight or flight response. Quand tu fais du sparring, quand tu fais de la boxe, le gars est devant toi. Tu ne peux pas penser au futur, tu ne peux pas penser au présent. Le gars, il donne des coups de poing d'en face. Il faut que tu contrôles tes émotions pour que tu puisses encaisser puis riposter. Moi, je suis plus un boxeur défensif. La raison pourquoi je fais de la boxe, c'est justement quand quelqu'un me fait de l'intimidation, je sais que dans ma tête, si ça va dans un cas extrême, je serai capable de bien... je serai capable d'être confortable dans une situation de viol.
OK, ça c'est déjà arrivé?
Ça m'est déjà arrivé. ça m'est déjà arrivé même l'été dernier, puis il y avait un autre acteur qui était sous l'effet de l'intoxication, il voulait se battre. Je dis « OK, go ahead. Donne-moi ton premier shot. Moi, je vais me défendre. Puis après ça, je vais plaider la légitime défense. »
Bon. OK.
C'est vrai.
Rick, c'est déjà la fin de notre entrevue. J'ai même pas le temps d'aller lire sur le live. Merci beaucoup pour votre participation en si grand nombre. Merci d'être à l'écoute. Merci pour vos dons. C'est extrêmement apprécié. On va vous nommer demain pour vous remercier en ondes, en direct. Merci, merci, merci. Et merci beaucoup d'avoir accepté cette entrevue qu'on a essayé à plusieurs reprises de faire fitter dans nos horaires. C'était pas évident, mais là, on a réussi ce soir en direct de Montréal. Merci beaucoup. Pour te suivre sur les différentes plateformes?
Je voudrais aller à mon Instagram. C'est là où est-ce qu'il y a toute la la centralisation de mes réseaux sociaux, Official Record sur mon Instagram. Vous allez dans le link en bio, vous allez tout voir, toutes mes plateformes, TikTok, Twitter, etc., etc.
Longue vie à toi et ton amoureux.
Merci beaucoup.
Est-ce que tu souhaites avoir des enfants?
Quand j'aurai une stabilité financière, comme oui, parce que ça me tente de gâter mes enfants. Quand ils sont à 16 ans, je vais leur acheter un char de l'année.
T'es encore jeune. C'est bon. Les beaux projets. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation encore une fois. Merci beaucoup, Max, en direct de Québec.
Hey, merci à toi.
Ce show-là, merci beaucoup tout le monde. Et c'est un rendez-vous demain, 22h. Vous étiez à l'écoute de La Sexploratrice sur les ondes de choix, 98.1 Radio X.
La Sexploratrice. Avec Mel Trudel.